Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le forum La Presse de ce soir, nous allons parler de la révision constitutionnelle de changement climatique avec la quinzaine de l'environnement qui se tient à Mopti, de sécurité et des examens de fin d'année qui se tiennent. Alors, comme invité, nous avons des journalistes comme d'habitude. Souleymane Drabo, qui est éditorialiste au quotidien national L'Essor, Célia Dalmeida de Journal du Mali, Moussa Traoré, qui est correspondant de Studio Tamani à Mopti, et également Bruno Dito Segbedji de l'Indépendant. Je suis Mouhamadou Touré, Seydou Simbo est à la technique.
Le Grand Dialogue.
Révision constitutionnelle, un projet de nouvelle constitution a été voté la semaine dernière par l'Assemblée nationale. La nouvelle loi fondamentale prévoit plusieurs modifications, parmi elles la création d'un Sénat et la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le projet sera soumis au référendum le 9 juillet prochain. En attendant, il suscite beaucoup de réactions. Alors, monsieur Souleymane Drabo, vous êtes éditorialiste au quotidien national L'Essor, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que cette révision constitutionnelle est justifiée?
Oui, mais il faut rappeler que c'est le troisième essai de révision constitutionnelle que l'on fait. Et chaque président qui est arrivé, enfin chaque président dans des périodes ordinaires a tenté de faire une révision constitutionnelle. Il y a eu un essai du temps d'Alpha Omar Konaré qui a renoncé en dernière minute à la fin de son mandat. Et ATT avait délégué Daba Diawara qui a déposé un projet de révision constitutionnelle, mais les événements de 2012 ont empêché le référendum d'avoir lieu. Et c'est facile, je pense qu'on y est. Mais en fait, il y a des problèmes concrets qui se posent à l'application de la constitution qu'on avait adoptée en 91-92. Et dans la pratique, il y a eu Alpha Omar Konaré, par exemple, voulait qu'on introduise le scrutin mixte, par exemple. ATT voulait créer un Sénat. Donc, il y a eu diverses intentions qui ont présidé au projet précédent. Pour la révision actuelle, je crois que le premier motif, c'est quand même l'accord de paix qui a été signé et qui prévoit notamment la création d'un Sénat et des modifications dans l'organisation territoriale du pays. Et donc, cette raison étant donnée, il y a d'autres modifications qui ont été mises, comme la fin du nomadisme et puis d'autres, la création de la Cour des comptes compte tenu des textes du mois. Donc, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été introduites en même temps que ce qui était prévu dans l'accord de paix.
Célia Dalmeida, vous êtes journaliste au Journal du Mali. Bonsoir.
Bonsoir. Merci.
Alors, est-ce que vous pensez que cette révision est justifiée?
Je vais aller sur la même lancée que le doyen Drabo en disant que justifié, je ne sais pas. En tout cas, il était prévu dans l'accord de paix puisque justement, en le signant, le Mali s'était engagé à un certain nombre de dispositions qui, pour les mettre en œuvre, avaient besoin d'une révision constitutionnelle. Donc, pour vous répondre, oui, peut-être à travers l'accord de paix. Autre justification, je ne saurais vous répondre.
Alors, Bruno, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de réviser cette constitution?
Par moi, il y a une nécessité, mais c'est la question de l'opportunité, du timing qui se pose. Parce que, comme le précédent Drabo le disait, il y a eu déjà des tentatives de révision. Et la classe politique a reconnu qu'il y a un certain nombre d'insuffisances. Ensuite, la signature de l'accord l'impose, plus ou moins, parce qu'il y a la création du Sénat. Et il faut y aller. On ne peut pas créer ce Sénat-là sans réviser la Constitution. Mais comment se fait-il que le gouvernement a un peu traîné les pieds et maintenant on est apparemment coincé parce que le délai, le texte a été voté déjà en début juin, le 9 juillet, aller au référendum. On sent quand même que le timing est très coincé. C'est là où ça suscite quelques polémiques. On pourrait revenir là-dessus.
Alors, il y a l'opposition déjà et le groupe et l'alliance SADI et ADP Maliba qui ont voté contre. Écoutons déjà Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition par rapport à cette révision.
Cette réforme n'est pas opportune. D'abord, nous avons un article 118 qui interdit d'engager une réforme référendaire quand l'intégrité du pays n'est pas assurée. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'endroits, il n'y a même pas de préfet, il n'y a pas d'administration. Je me demande alors comment le référendum lui-même et le vote peuvent être organisés. La deuxième chose, le gouvernement fait beaucoup de communication sur une conférence d'entente nationale qui doit déboucher sur une charte qui forcément va impacter sur la Constitution. Bon Dieu, attendons un peu d'avoir des résultats de cette charte pour l'introduire. La troisième chose que nous contestons, c'est que l'essence même de cette réforme pour le président de la République, c'était un approfondissement de la décentralisation. Mais à quoi on assiste ? Un renforcement du pouvoir du président de la République. Désormais, il va nommer un tiers des sénateurs. Désormais, il va nommer le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Nous allons nous battre pour que cette constitution ne soit pas une constitution appliquée à la République du Mali.
Alors, Moussa Traoré, vous êtes correspondant de Studio Tamani à Mopti. Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que la population de Mopti pense de cette révision constitutionnelle?
Mais écoutez, les avis sont quand même partagés, même autant dans les milieux intellectuels que dans les milieux du citoyen lambda. En tout cas, pour certains, pour certains, quand même, ils ne comprennent pas pourquoi on touche à la Constitution. Mais dans certains milieux intellectuels, quand même, on sait quand même que cette révision constitutionnelle s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Alors, si on le prend dans ce sens, dans ce contexte, donc il y a certains milieux qui comprennent. Mais au niveau des différents grains, surtout des grains des jeunes, on pense que c'est une manipulation du pouvoir qui est là, du gouvernement qui veut se pérenniser au pouvoir, donc que c'est des manipulations politiques. Bon, je crois que les gens manquent un peu d'informations concrètes par rapport à cette volonté de révision constitutionnelle aujourd'hui dans la ville de Mopti.
Alors, c'est lié par rapport à l'article 118, Soumaïla Cissé vient de le dire, on parle de violation. Que pensez-vous de cet article?
Je pense que à l'instar de la plupart des Maliens, en tout cas, qui ont eu la curiosité d'aller lire cet article et de voir ce qu'il y est dit, que l'intégrité territoriale du Mali, quoi qu'on en dise, n'est pas assurée aujourd'hui. Et si on part du principe que le chef de l'État est garant de l'intégrité territoriale du pays et qu'aujourd'hui notre président ne peut pas se rendre par exemple à Kidal, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc est-ce que nous allons partir dans un référendum? Par définition, c'est un vote où on demande au peuple de décider de quelque chose. Et là, encore, c'est sur la loi fondamentale du pays. C'est le texte qui régit notre nation. Et on va partir en sachant qu'il y a une partie de la population qui ne va pas pouvoir voter. Parce que quoi qu'on dise, quelle que soit la bonne volonté, l'optimisme dont on voudra faire preuve, les faits sont là. Dans la région de Mopti, dans tout le centre d'ailleurs, dans les régions du nord, Tombouctou, Gao, Kidal, pour ne pas citer d'autres, on sait que les populations ne pourront pas aller voter. Soumaïla Cissé l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas une question de parole d'opposant, c'est un fait. Donc si on le sait, est-ce qu'on va prendre le risque de faire voter une constitution en sachant qu'une grande partie, enfin une certaine partie de la population ne pourra pas donner son point de vue? C'est une vraie question qui se pose justement pour la légitimité de ce texte qui va être voté le 9 juillet.
Alors il y a la Cour constitutionnelle qui a pris une décision par rapport à cet article qui dit que la procédure de la révision de la constitution est régulière en la forme car elle a respecté les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 118 de la constitution qui stipule l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. Cependant, le projet ou la proposition de révision doit être votée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. Tout ça a été respecté. Aussi, l'État, à travers ses représentants, les organes élus et les autorités intérimaires, exercent la plénitude de ses missions régaliennes sur le territoire national. Dès lors, une insécurité résiduelle à elle seule ne saurait remettre en cause la régularité d'un référendum. C'est ce que la Cour constitutionnelle dit.
Déjà, la Cour constitutionnelle dit cela. Nous avons eu un communiqué qui nous dit, si je ne me trompe pas, Bruno, que d'ici le 20 juin, il va y avoir installation effective des autorités intérimaires. On n'est pas encore le 20 juin, personne ne sait ce qui va se passer. On a vu les gens à qui on a affaire qui soufflent le chaud et le froid. Donc on est dans une certaine incertitude. Et puis il y a la loi, et puis il y a, comment on dit ça, l'esprit de la loi, c'est ça? Voilà, donc il y a ce que disent les textes, mais il y a la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, personne au Mali aujourd'hui ne peut dire qu'il l'ignore. Notre ami de Mopti l'a dit tout à l'heure, il y a les intellectuels, il y a le citoyen lambda, mais tout le monde est d'accord en tout cas qu'aujourd'hui, le Mali, l'état du Mali, il y a quelqu'un qui a dit ça la dernière fois, on a l'impression que c'est à Tombouctou et à Kidal, mais dans le Massina à côté ici, il y a des zones où nos militaires ne peuvent pas se rendre. Comment on va faire pour organiser un vote là-bas? Et alors, c'est monsieur... pas une seule ville, donc c'est pas une insécurité résiduelle, c'est une vraie situation d'absence de l'autorité de l'état sur des territoires du Mali.
Monsieur Drabo, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de la Cour constitutionnelle?
Je pense que la Cour constitutionnelle c'est un peu défaussée, si vous voulez. Voilà. Elle a joué. Quel est le mot qu'on peut utiliser? Elle s'est un peu défilée, quoi, dans cette histoire. Parce que la réalité, si jamais on prend les élections communales comme étalon, il y a une cinquantaine de communes sur les 703 communes, il y a une cinquantaine de communes dans lesquelles les élections n'ont pas pu se dérouler. Et depuis les élections communales, la situation s'est aggravée dans la région de Mopti. L'insécurité s'est installée beaucoup plus profondément dans la région de Mopti, comme Moussa Traoré vient de le dire. Et ça, c'est une des premières faiblesses de l'opération du référendum. Le deuxième point, c'est les réfugiés. Qu'est-ce qu'on fait des réfugiés? Les réfugiés, ils ont déjà été exclus des municipales. Bon, je pense qu'ils vont être exclus du référendum, malgré l'engagement que les groupes armés ont pris de faire campagne dans les camps de réfugiés et hors du Mali. Je pense qu'on peut dire que une bonne partie des réfugiés va passer à la trappe dans l'opération. Le troisième point, effectivement, qui est soulevé par les gens, c'est le temps donné à la population pour entendre les explications sur la nouvelle constitution. Et effectivement, l'opération a été menée à marche forcée. Comme l'ont dit les précédents intervenants, effectivement, le projet de texte a été voté la semaine dernière, le week-end passé à l'Assemblée nationale. Et donc, personne, en fait, le grand public n'a pas pu entrer dans les arcanes des innovations pour pouvoir se faire une opinion. Donc, il y a vraiment beaucoup de faiblesses dans l'opération. Mais de l'autre côté, le gouvernement, je pense, est soumis aux pressions de la communauté internationale aussi, parce qu'il y a des engagements à prendre dans le cadre de l'application de l'accord de paix.
Oui, mais est-ce que cette pression devrait obliger le gouvernement à prendre des décisions qui ne sont pas, bon, entre guillemets, reconnu par un certain nombre de Maliens?
Non, rationnellement, non. Non.
Ok. Alors, Monsieur Bruno, il y a des réactions qui se multiplient autour de ce projet de révision de la Constitution. Il y a des manifestations qui ont été organisées cette semaine et empêchées par les forces de l'ordre. Que pensez-vous de cela?
Avant d'arriver à ce point, j'aimerais revenir sur l'article 118. Vous savez, le droit a ce défaut là qu'on lui fait souvent, ce procès qu'on lui fait, que les termes ne sont pas suffisamment bien définis. L'article 118 parle de l'impossibilité de réviser la Constitution en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale. Maintenant, c'est du juridisme, chacun veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, l'atteinte à l'intégrité territoriale. Et dans le contexte malien, la plupart des juristes s'accordent à dire que le territoire malien n'est plus intègre, si on veut parler de façon simple. Parce que dès que l'autorité politique ne peut pas mettre pied, le gouvernement, les ministres ne peuvent pas arriver à certains points, l'intégrité, est un peu altérée. Donc, a priori, le moment est mal choisi pour réviser la Constitution. C'est dans ce sens que la Cour semble s'orienter plutôt vers... Vous savez, on a toujours fait le procès à nos cours constitutionnelles d'être des tours de Pise, de décider en fonction de l'intérêt du pouvoir en place. La décision qui va dans le sens de l'autorité en place. Donc la Cour cherche des arguments, par ce que vous avez lu, pour dire que rien n'empêche cette révision, mais il faut reconnaître que sur la pratique, comme Célia l'a dit, on veut bien voir comment la campagne va se faire, comment les autorités iront à Kidal et autres.
Pourquoi empêcher les gens de manifester?
Oui, empêcher les gens de manifester, c'est là où c'est à déplorer suffisamment, parce que il faut au moins laisser les gens s'exprimer. Et la campagne et puis le résultat du scrutin décidera si c'est le oui qui l'a emporté ou c'est le non. Mais en attendant, si des gens ont des appréhensions, moi je condamne. C'est une entorse à la liberté d'expression, à la liberté de manifester, que la police envahissent les coins pour empêcher les gens de bouger. Qu'on les laisse, qu'on les protège, qu'ils circulent, qu'ils s'expriment pour dire. Et maintenant, ceux qui sont pour, ceux qui défendent, le lendemain ou d'autres, un autre jour aussi peuvent sortir. Donc ça permettra à chacun de s'édifier, de savoir où on va, quel est l'intérêt du peuple, et ça prépare déjà pour la campagne. Donc ce n'est pas bien que le pouvoir public déploie la police pour empêcher les gens de manifester.
Alors, Moussa Traoré, est-ce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement également, c'est à cause du gouvernement également que ces manifestations, ces réactions se multiplient, quand on voit que le projet, c'est vrai qu'il y a un processus à suivre, mais le projet, les Maliens ne l'ont toujours pas, et qu'on a vu qu'il y a même sur les réseaux sociaux l'ancien projet ou le projet qui n'a pas été validé par l'Assemblée nationale qui circulait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le fait que le peuple malien n'a pas ce projet qui suscite également beaucoup de réactions? Monsieur Traoré? Alors, adressons la question à Célia, alors.
À moi, écoutez, je pense que oui, parce que malheureusement, et ça, c'est là où le bas blesse dans cette histoire, dans cette gouvernance depuis qu'elle a commencé, c'est la communication. On l'a dit sous tous les tons, et malheureusement, les choses ne s'améliorent pas beaucoup. Un texte comme celui-là, surtout que l'on sait que le temps pour le faire, à moins qu'on ne veuille pas que la population s'en approprie. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais ça ressemble à cela. Parce que si on est aujourd'hui 9 juin 2017, nous sommes à un mois, jour pour jour. Et il vient d'y avoir, pas loin de vous ici à Studio Tamani, une conférence de presse où les partis de la majorité présidentielle disent, on l'a pas imaginé, ils disent que c'est aujourd'hui qu'ils ont eu le texte. Alors imaginez le vendeur de viande qui ne parle pas français, qui ne saura même pas lire cette version-là, à qui il faudra le traduire. Quand les gens font circuler une version qui est déjà ancienne, c'est parce qu'ils ont besoin d'informations. Ouais. Ils sont en train de la chercher. Comme vous le dites sur les réseaux sociaux, ça fait une semaine que tout le monde poste « Mais qui a le texte? Qui a le texte? Qui a le texte ?» Nous, les journalistes, nous l'avons cherché en vain. On a tout fait pour l'avoir. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des copies qui sont disponibles. Mais j'espère, je prie pour que le gouvernement n'attende pas le moment de la campagne pour expliquer le texte, parce que si c'est en une semaine qu'on va expliquer une loi fondamentale à une population de 17 millions d'habitants, je pense qu'il y a un problème, parce que c'est pas seulement les gens qui vont aller voter, c'est pas eux qu'il faut expliquer, c'est à tout le peuple, même ceux qui, nos enfants, ce texte les engage, donc quelque part ceux qui ont la capacité de comprendre, il faut qu'ils puissent comprendre aussi. Donc il faut vraiment que ce travail commence le plus tôt possible aujourd'hui. On est déjà en retard d'ailleurs, il devait commencer hier.
Alors le projet a déjà été voté. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que le référendum pourra se tenir sur toute l'étendue du territoire le 9 juillet? Alors, écoutons monsieur le ministre Tapo par rapport à cette question.
Je comprends que sous votre question, vous faites référence aux questions relatives à l'insécurité. Mais cela ne peut pas nous empêcher, ne devrait pas nous empêcher. Nous avons tenu les élections municipales il y a juste quelques mois dans les mêmes conditions. Nous ferons en sorte que les régions du Nord et celles du Centre puissent être sécurisées par nos forces et avec l'aide des partenaires, afin que cette consultation référendaire, en tout cas, soit partagée par le plus grand nombre de Maliens. On parle de l'insécurité, mais une des solutions pour qu'il y ait moins d'insécurité, c'est que l'accord de paix soit mis en œuvre. Et pour que sa mise en œuvre soit complète, nous sommes obligés de passer par le référendum.
Est-ce à dire que les dispositions sécuritaires ont été prises pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions?
Le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Défense travaillent à cela et pourront s'exprimer le moment venu plus efficacement et avec plus de compétences que moi.
C'est plutôt Tchema Hubert Koulibaly. Alors, monsieur Drabo, que pensez-vous de cette déclaration de Tchema Hubert Koulibaly?
Bon, je crois Clément, il fait son travail, donc il essaye de rassurer les gens. Mais dans la pratique, dans ce qu'on vit au quotidien, et je crois que Moussa Traoré à Mopti pourra nous le confirmer, cette région où la situation est de pire en pire. Donc dans la pratique, il est douteux qu'on puisse tenir les élections, ce référendum constitutionnel sur toute l'étendue du territoire national. Franchement, il n'y a pas un observateur raisonnable qui peut vous dire aujourd'hui que ça va se faire.
Alors, Monsieur Bruno.
Oui, d'abord, j'insiste là-dessus, hein, la procédure pêchée par son retard, parce que ce n'est pas toute loi, c'est pas une loi ordinaire, c'est réviser la constitution qui est le contrat social de ce pays-là, la constitution de 92. Il devrait avoir plus de temps d'expliquer, même si, comme le ministre Thiemal l'a dit, même si l'autorité de l'État se réapproprie tout le territoire à partir du 20 juin, on est sûr qu'il y aura des séquelles de tout ce qu'il y a comme attaque, tous ceux qui prônent la charia, tous ceux qui se sont attaqués aux écoles, dans Yuwaru, dans Ténénkou. Je veux bien voir quel ministre va y mettre pied le lendemain de l'établissement de l'autorité des Fama pour dire venez voter un texte que les gens à l'approche des djihadistes vont assimiler à un apport de l'Occident. Et donc, le risque est là. Je ne sais pas pourquoi la gouvernance a traîné. Pas pour arriver à l'accord. On se retrouve dans une situation où c'est un serpent qui se mord la queue. On dit c'est l'accord qui impose plus ou moins cette révision constitutionnelle. Et c'est cette révision constitutionnelle qui fera venir la paix. Or, en même temps, le territoire n'est pas contrôlé totalement par le pays. Si la procédure avait été enclenchée plus tôt, avec l'accord même signé plus tôt, ça remet en cause même depuis l'installation du président à Koulouba, que toutes les tergiversations qu'il y a eu, que l'opposition a soulevé, à bon droit, on se rend compte aujourd'hui, parce que le président a dit on ne négociera pas, finalement ça a été, les négociations ont dû avoir lieu. Si ça avait été fait plus tôt, l'accord aurait été signé plus tôt, on ne serait pas coincé. C'est aujourd'hui, je parie, je défie, il y a des ministres qui n'ont pas le texte. Des ministres, membres du gouvernement qui n'ont pas le texte aujourd'hui.
Alors là, c'est compliqué.
Oui.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, avec nous dans le studio, Souleymane Drabo, éditorialiste plutôt au téléphone, Célia Dalmeida, journal du Mali, Moussa Traoré, correspondant de Studio Tamani à Mopti, et Bruno Dito Segbedi de l'Indépendant pour parler de la révision constitutionnelle, de changement climatique, de la sécurité et des examens de fin d'année. C'est le forum de la presse. Alors, nous allons parler de sécurité. Quand on voit que la dernière attaque, c'était à Kidal, il y a eu 3 casques bleus qui sont morts, il y a eu 8 blessés, et on annonce également la création de cette force du G5 Sahel, est-ce que réellement la situation s'améliore, Célia Dalmeida?
Inch'Allah. Oui, la situation peut s'améliorer si les actes qui sont posés portent des fruits. L'annonce de la force du G5 Sahel qui avait été justement faite il y a plusieurs mois déjà, il a été un peu plus concrète au mois de février dernier lors du sommet des chefs d'État ici à Bamako, et le mandat endossé par l'Union africaine en mars. Je pense qu'il y a un processus qui est né d'une volonté des chefs d'État, quelque part, de se réapproprier cette question de sécurisation des territoires du Sahel. D'accord ? Donc les 5 pays membres, Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie et Tchad. Maintenant, moi j'avais l'espoir d'une force authentiquement africaine. Vous comprenez ce que je veux dire ? Avec des forces africaines, formées à la manière africaine, je veux dire, je pêche peut-être par optimisme ou par idéalisme, avec des fonds africains.
Mais est-ce que l'Afrique a les moyens ?
Mais nous avons les moyens. Les moyens se trouvent. Il y a des financiers africains qui ont de l'argent, qui investissent. Il faut leur expliquer le bien fondé de cet investissement pour la paix sur le continent. Voilà. Il y a des gens qui investissent pour l'entrepreneuriat. S'ils peuvent investir pour l'entrepreneuriat ne peut pas réussir dans un continent en guerre. Donc si on leur explique que pour arriver à ce que les business qu'ils font puissent marcher, les jeunes qu'ils forment puissent
être des valeurs pour le continent, il faut qu'il y ait la paix et que le continent a besoin d'argent. L'Union africaine doit savoir faire ce travail. Nos entités sous-régionales doivent savoir faire ce travail. Mais systématiquement, nous nous tournons vers l'Occident en tendant la main. Et ça a été ma petite déception sur ce dossier-là. Et maintenant, la question de où est-ce qu'ils vont se positionner, comment est-ce que ça va être organisé, comment est-ce qu'ils vont fonctionner avec toutes les autres forces qui sont déjà sur le terrain. Il y a beaucoup d'interrogations autour de ce qui va se passer.
Alors, Moussa Traoré, vous êtes à Mopti, dans le centre du pays. Pouvez-vous nous expliquer la situation sécuritaire là-bas actuellement?
Bon, écoutez, je peux vous dire que la situation sécuritaire dans la région centre, principalement dans la région de Mopti, elle est très critique parce qu'il y a certains cercles qui sont aujourd'hui carrément coupés. Je vais parler du cercle de Ténéngou, où il n'y a pas vraiment un accès aujourd'hui entre la ville de Mopti et ce cercle-là. Il y a aussi une partie du cercle de Yuwaru. Et si vous venez un peu aussi dans le cercle de Mopti, vous allez constater que vers la zone de Kouryanzé, la commune de Simbégué, là-bas aussi, on commence à reprendre progressivement du terrain avec, en tout cas, les soi-disant terroristes ou les bandits armés. Donc, c'est pour vous dire qu'une bonne partie de la région de Mopti aujourd'hui est dans une situation d'insécurité quasiment totale. C'est des zones où il n'y a pas d'administration, c'est des zones où il n'y a aucune école, c'est des zones où les quelques projets de développement qui existaient et qui passaient sur le terrain aujourd'hui ne peuvent pas le faire à cause de cette insécurité et qui va malheureusement de façon grandissante, malgré quelques mesures salutaires qui sont prises pour le moment à la faveur de certaines décisions du leadership régional, à la faveur de l'état d'urgence. Donc il y a quand même des dispositifs qui sont là, mais malgré ces dispositifs, on constate qu'une bonne partie vraiment de la région de Mopti aujourd'hui n'est pas aujourd'hui sous le contrôle de l'État où il y a vraiment une insécurité totale.
Monsieur Drabo, on voit qu'il y a des forces de sécurité, il y a la MINUSMA, il y a Barkhane, il y a la force G5 Sahel qui arrive. Pourquoi la situation ne se stabilise pas?
Je pense que c'est ce constat qui justifie la création de la force conjointe du G5 Sahel. Dans le projet de résolution que la France a déposé au nom des pays du G5 Sahel devant le Conseil de sécurité, il est donné mandat à cette force d'utiliser tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme. Donc, c'est un mandat très différent de celui de la MINUSMA qui est un mandat de maintien de la paix. Donc, pourquoi cette force conjointe, la procédure va aussi vite? Parce que, franchement, sur le plan international, c'est très rare que les opérations aillent aussi vite. Mais pour cette force, les choses vont assez vite. Parce que c'est une création qui arrange tout le monde. Ça arrange les pays du G5 Sahel qui ont envie de retrouver la maîtrise de leur propre sécurité et qui ont envie de pousser le terrorisme hors de leurs frontières. Ça arrange les Français qui veulent éviter de s'enliser dans le Sahel. Ils ne veulent pas que Barkhane reste ici pour des années et des années aussi. Donc la force conjointe, c'est une porte de sortie pour eux. Et sur le terrain déjà, il y a eu quelques essais. Il y a eu l'opération Panga qui a réuni Barkhane et les pays du G3 du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont tenté une opération. Ils ont testé la coordination, une coordination possible des forces, et ils ont vu que dans la pratique, ça allait marcher. Et maintenant, on annonce qu'il y a un sommet du G5 ici en début juillet, un sommet auquel va participer le président Macron aussi. Donc, franchement, les choses vont assez vite et nous avons tous intérêt à ce que ça aille très vite, parce que si vous prenez l'exemple de Boko Haram entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, c'est parce que les armées africaines sont entrées en action, se sont unies pour attaquer Boko Haram dans ces zones, qu'on a assisté à un refus relatif pour l'instant, mais un refus quand même de ces forces djihadistes. Donc je pense que il y a des espoirs qui sont fondés, des espoirs réels et objectifs qui peuvent être fondés sur la force conjointe si on arrive à la mettre en marche assez vite.
Alors, Monsieur Bruno, il y a Drabo qui vient de le dire, les choses vont assez vite quand il parle des mesures prises, mais également l'insécurité va assez vite. Est-ce que cette force G5 Sahel pourra changer quelque chose par rapport à cette situation?
je voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je suis un peu sceptique. Parce que n'oublions pas que la solution au problème sécuritaire n'est pas que militaire. Et on a comme l'impression que on a beau se militariser, se faire renforcer par la force du G5 Sahel, il y avait Barkhane, il y a MINUSMA, mais c'est cette guerre asymétrique des gens qui viennent de n'importe où, qui sont en moto, qui replient dans les forêts. Vous pensez que sincèrement la présence militaire renforcée pourrait, il suffit qu'il y ait un manque de vigilance, ces gens-là vont attaquer, qui sont au marché? Qui sont simplement au marché, qui portent des... Donc, je crois que... moi, je suggère qu'on explore la voie de tendre la perche aux djihadistes, aux terroristes maliens, comme certaines voix se sont élevées pour le demander, quand bien même on sent que l'Occident, ou bien la communauté internationale, ou bien la France s'est opposée à cela. Même l'opposition aussi l'a demandé une fois, qu'on tende la main à Yada Gali ou à Koufa ou à leurs proches. Qui est cette médiation-là qui pourrait certainement pacifier un peu, mais le président de la République aussi s'y est opposé dans son interview à Al Jazeera en disant que la conférence d'entente nationale n'a pas acté qu'il y ait un dialogue par rapport à ça. Je crois que la solution militaire, elle est bonne, elle permet de créer l'espoir, mais ce n'est pas sûr qu'à 100% elle va pouvoir contrecarrer ce péril terroriste, ce péril djihadiste entre griffes. Il faut aussi d'autres voies, les voies politiques de négociation pour approcher ceux qui prônent. Et ils ne demandent pas l'indépendance, mais la charia, etc. Donc ces gens-là, leur comprendre comment les contrecarrer, comment les intégrer dans un système de dialogue pour pacifier un peu ces zones. Je crois que ça pourrait aller davantage.
Alors parlons des examens de fin d'année, celui du diplôme d'études fondamentales s'est tenu cette semaine. Il y a eu une réaction d'une ressortissante du nord du Mali sur nos répondeurs. Écoutons la dame.
Le directeur des examens de concours disait qu'il a rencontré, qu'il a bien vu les programmes officiels des différentes académies. Par contre, les sujets sont basés sur le troisième trimestre, tels qu'en maths, en sciences et en biologie. Et concernant le Nord, les élèves n'ont pas vu cela. Le Nord n'a pas vu cela.
Alors, M. Moussa Traoré, vous êtes également au centre du pays qui est touché par l'insécurité. Est-ce que c'est le cas chez vous quand cette dame dit que les sujets étaient basés sur les cours qui ont été dispensés lors du troisième trimestre, alors qu'il n'y a pas eu de troisième trimestre au nord du pays?
Oui, en tout cas, dans les écoles publiques, hein, c'est ça. Les épreuves, pour vous dire que les sujets qui ont été donnés aux élèves, en tout cas la plupart des sujets qui ont été donnés étaient basés sur les modules du troisième trimestre, surtout en physique, chimie, selon en tout cas les différentes réactions que nous avons pu recueillir ici sur les terrains. Il y a beaucoup d'élèves du public quand même qui se sont plaints par rapport à ça. Je ne parle pas trop du privé, pour les privés ça va un peu, ils étaient quand même à cheval sur le programme, mais par rapport au public, vraiment, le sujet qui a été donné, les élèves n'étaient vraiment pas parvenus à épuiser vraiment le programme. Ce qui a vraiment posé un véritable programme. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'élèves au niveau de la région de Mopti aujourd'hui sont quand même sceptiques après ces examens du DF. Donc il y a des mécontentements par-ci, par-là, parce que les élèves n'avaient vraiment pas touché ce sujet qui faisait partie des modules du troisième trimestre, en tout cas au niveau des écoles publiques.
Également, il semblerait que le concours n'a pas pu se tenir dans certaines parties du centre du pays.
Oui, évidemment, dans les cercles de Ténangou notamment, il y a aussi le cercle de Djéné, le cercle de Yuwaru, où une grande partie de ces cercles n'ont pas pu quand même constater le bon déroulement des examens du DEF. Et pour vous dire même qu'il y a eu quand même des choses faites dans ce sens par les autorités régionales. Par exemple, pour la petite anecdote, il y a 299 candidats qui ont été délocalisés et qui ont été répartis entre 9 centres. Et ces 299 candidats venaient des fêtes de Djéné, de Ténangou ou de Yuwaru. Sinon, que dans l'ensemble, il y a eu quand même 67 122 candidats au niveau de l'académie d'enseignement de Mopti pour le DF et qui étaient répartis entre 69 centres. En tout cas, selon le directeur de l'académie d'enseignement de Mopti, il a jugé que les examens quand même se sont déroulés globalement.
globalement bien malgré la situation d'insécurité, mais retenez essentiellement de l'information que 299 candidats ont été délocalisés et répartis entre 9 centres, et ces délocalisés étaient reçus des fêtes de Djéné, Ténankou et Yoware. Pour vous dire qu'il n'y avait pas eu d'examen dans la majorité de ces fêtes-là.
Alors, M. Bruno Dito Sekbedi, que pensez-vous de la tenue de ces examens?
Bon, déjà le fait que les examens aient pu se tenir globalement, on nous a signalé que même à Kidal il y a eu une cinquantaine de candidats.
Ce qui n'a pas été le cas depuis 2012.
Voilà, déjà c'est quelque part, c'est à saluer, c'est un bon départ. Maintenant, les plaintes, je crois, c'est que par rapport à certains sujets, le troisième trimestre n'a pas été fait. Je crois que les autorités de l'éducation, le ministère, les académies pourront gérer ça. Il faut saluer le fait que les examens se sont pu se tenir. Il n'y a pas eu de grandes fuites comme certaines années où on a signalé des sujets dans les rues. Donc, on peut se féliciter, croiser les doigts pour que dans les méthodes de correction et dans les systèmes de pédagogie ou d'académie, les correcteurs puissent tenir compte de ce déséquilibre, si je peux le dire, qui a fait que certains ont été favorisés, d'autres n'ont pas été favorisés. Voilà.
Alors, Monsieur Drabeau, pensez-vous que cela sera pris en compte quand Monsieur Traoré dit que les élèves sont sceptiques parce que les cours qu'ils n'ont pas vus, les sujets importés sur ces cours-là?
Oui, moi je suis d'accord avec Bruno qu'un grand effort a été déployé par l'État pour tenir les examens, même jusqu'à Kidal. Et on a parlé des 700 candidats qui ont été délocalisés. Donc ça, c'est un effort certain des pouvoirs publics pour que, même dans des conditions qui ne sont pas idéales, qu'un maximum d'élèves puissent passer les examens. Mais moi, ce que je relève ici, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'opère entre les écoles privées et les écoles publiques. Ouais. Cette année, ce déséquilibre est flagrant au niveau, parce que la grande majorité des écoles privées a effectivement une année scolaire normale, alors que la grande majorité des élèves qui sont dans le système public ont connu une scolarité vraiment perturbée. C'est le moindre des qualificatifs qu'on peut utiliser. Donc il y a un déséquilibre qui s'opère entre le public et le privé, et ça, c'est un déséquilibre dommageable sur lequel on devrait se pencher. Et même si dans la correction des examens, comme semble le suggérer les collègues, il y a une certaine mansuétude qui est accordée aux gens qui n'avaient pas reçu les leçons sur lesquelles les épreuves ont porté, les leçons du troisième trimestre. Je veux dire que le mal est fait, c'est-à-dire que le niveau de ces candidats laissera à désirer, même s'ils passent en définitive au DF.
Ouvrons juste une petite parenthèse, est-ce que si les examens se sont tenus à Kidal, peut-on penser que le référendum également pourra se tenir à Kidal? Même avec la déclaration du porte-parole de la CMA qui dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce projet de révision et qu'ils empêcheront la tenue de ce référendum. Monsieur Drabeau.
Bon, oui, les frères de la CMA, comme le vocabulaire officiel veut qu'on les appelle, les frères de la CMA, ils ont toujours un double langage, ils pratiquent un double langage. C'est-à-dire qu'au sortir de leur rencontre avec le ministre des Droits de l'Homme, ils semblaient globalement d'accord avec l'opération du référendum, sous réserve, disait-il, de consulter le texte pour voir s'il était conforme à ce qui était contenu dans l'accord de paix. Et on a l'habitude avec la CMA, que la CMA souffle le chaud et le froid. Et pour cette opération, il aurait été étonnant que la CMA ne dise pas une chose et son contraire par la suite. Mais moi, ce que je veux croire, c'est que toute la médiation internationale a haussé le ton ces derniers temps pour que le processus de l'accord de paix soit suivi avec un minimum de sérieux enfin. Et une promesse a été faite que le 20 juin, le gouverneur et les autorités intérimaires pourraient commencer à travailler à Kidal. Et donc, nous, on est là, on attend encore une fois en espérant que cette fois, ce sera la bonne.
Alors, nous allons profiter de 5 minutes qui nous restent pour parler de changement climatique. La planète est touchée par ce phénomène. Le Mali ne fait pas exception. Les mesures de lutte se multiplient. Parmi elles, la quinzaine de l'environnement qui se tient actuellement à Mopti. Écoutons un autre correspondant de Studio Tamani, Bokoum, qui va nous faire le point sur le premier bilan déjà, le bilan actuel de la quinzaine de l'environnement.
Alors, avant le lancement, il y avait beaucoup d'activités qui devraient avoir lieu, notamment dans le domaine de la communication. Bien sûr, à Mopti, il y a eu une conférence de presse, mais je vous avoue qu'en dehors de cette conférence, jusqu'à la veille de l'événement, aucune activité de communication n'a été posée au niveau des Mopti, au niveau local. Surtout en sachant que l'événement se passe à Mopti et la majeure partie des activités, c'est dans la commune de Mopti et d'autres villes de la région. Donc, ce qui a un peu joué sur l'organisation, parce qu'on s'est rencontré à un bicéphalisme au niveau des deux commissions d'organisation, notamment la commission d'organisation régionale et la commission d'organisation nationale, qui ne parlaient pas apparemment le langage, qui n'étaient pas au même niveau d'information apparemment. Donc ça a un peu joué sur l'organisation de cette acte. Ce problème a même répercuté sur les médias qui sont venus de Bamako, d'ailleurs, parce que bah, la population ne s'en pas trop concernée, parce que l'information.
Alors, M. Traoré, vous êtes également à Mopti. Partagez-vous cet avis de Bokoum?
Oui, tout à fait. Moi, j'irais même loin en disant qu'il faudrait que, pour les futures activités qui arrivent, qui sont délocalisées au niveau régional, que Bamako arrête de faire ce qu'on peut considérer et appeler comme étant de l'ingérence. C'est vrai, parce que à première vue, hein, quand on constate ce qui s'est déroulé ici à Mopti, on a juste l'impression que les organisateurs, ils étaient quand même... ce qui les préoccupait, c'était l'ouverture, c'était de recevoir le président de l'Assemblée nationale, Ishaka Kidibé, c'était la première dame qui était annoncée. En tout cas, les autorités au niveau national qui devraient être là, Mopti, c'était de la recevoir et réussir en quelque sorte cette mobilisation populaire autour d'un lancement. Bon, moi, je dirais qu'un tel événement, ça doit aller au-delà. Techniquement, ça doit aller au-delà. Aujourd'hui, les activités qui sont en train d'être menées aujourd'hui à Mopti, je vous avoue que même cet après-midi, je viens de quitter une conférence, mais cette conférence, elle ne regroupe que des techniciens. C'est des techniciens qui se voient entre eux. Donc, c'est pour vous dire que normalement, moi, je verrais la portée de la chose au niveau des populations. Quand on prend Mopti aujourd'hui, quand on prend le delta intérieur du Niger aujourd'hui, qui part du delta intérieur, tu ne peux pas dissocier le fait de Senegou, tu ne peux pas dissocier le fait de Yuwaro. Alors, tous ces fait-là ne sont pas aujourd'hui touchés par les activités de la 7-15e de l'environnement à cause d'abord de l'insécurité. Et pour répondre, la penseur qui disait un moment qu'il y a problème réellement au niveau de la diffusion et de la dissémination de l'information. Chaque mission qui arrive aujourd'hui à Mopti s'arrête au niveau régional. Il ne sert pas au niveau des services, soi-disant qu'il y a de l'insécurité là-bas, on envoie de la correspondance à ces gens-là et on leur dit de rallier la capitale et régionale. Donc ça, c'est des comportements. Quand on veut que les choses réussissent, il faudrait d'ores et déjà que tout cela, qu'on essaie de les revoir et que Bamako arrête vraiment de faire de l'ingérence dans ce qui peut être considéré comme l'organisation des activités de localité.
Ok, dernier mot à M. Drabo, juste en quelques secondes. Quand on voit, est-ce que la meilleure façon de lutter contre un problème n'est pas d'impliquer tout un chacun? Et là, quand on voit que le problème de communication fait défaut, comme nos confrères l'ont dit, que pensez-vous de cela?
Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que le choix de Mopti pour accueillir la quinzaine, c'était un choix, un excellent choix. Parce que Mopti, c'est quand même le concentré de tous les problèmes posés par les changements climatiques dans notre pays, non seulement sur le plan du climat et du mode de vie des gens, mais sur le plan politique, sur le plan de la sécurité. Quand vous voyez comment les différents fonciers sont aggravés par les changements climatiques et comment ces différents fonciers dégénèrent en conflits communautaires, vous voyez, donc il y a la région qui est vraiment le concentré de tous les problèmes posés par les changements climatiques dans notre pays.
Merci Monsieur Drabo, le temps. Alors c'est ce qui met fin au forum de la presse de ce soir. Présentation Mouhamadou Touré, les invités Souleyman Drabo, éditorialiste, Célia Dalmeida de Journal du Mali, Moussa Traoré, correspondant de Studio Tamani à Mopti, Bruno Djito Segbedi de l'Indépendant à la technique, c'est le Simbo, et régie vidéo a été assurée par Gagné Kanté. Merci et à lundi prochain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.